Nous sommes mercredi 7 mars 2018, nous ne sommes pas professionnels, vous écoutez le Dojo Bar.
Bar yeah.
Bonsoir à tous, bonsoir Drosgar.
Bonsoir Mortel.
Bonsoir Mecton.
Bonsoir et coucou Damien, repose-toi bien.
Oui, coucou Damien, il paraît que tu t'es fait mal. On n'a pas compris. Alors, rupture du frein, c'est bien ça?
Ouais, ça doit être ça.
Il y a plein de sens, c'est affreux.
Et bonsoir Zergy qui vient tout juste de nous rejoindre, je sais pas si on va l'entendre tout de suite.
Salut.
Et voilà, Zergy est là, c'est magnifique. Ça fait du bien.
Santé. Professionnel, on a dit.
Toujours. Donc ce soir, le Dojo Bar est sponsorisé par Dr Poivre. 23, 23 saveurs uniques à l'intérieur d'un authentique mélange. Et c'est très bon en plus. Ça fait bien plaisir.
Tout fait que c'est connerie.
Donc, j'ai oublié, en fait c'est important. Joyeux anniversaire,
joyeux anniversaire, joyeux anniversaire,
la Ouya,
joyeux anniversaire.
Et oui, c'était il y a un an, alors pas tout à fait tout rond, mais il y a un an, nous avions un dojo bar qui était consacré à la sortie de la nouvelle machine de Nintendo, qui est un franc succès, et c'est surtout là-dessus qu'on va revenir, parce que il y a un an, nous avions des doutes. D'autres ont émis des doutes beaucoup plus forts que les nôtres, et beaucoup plus lol, du coup, avec le recul.
Oui, du coup, on va bâcher Gamekult. En plus de bâcher Gameblog, hein, comme toujours.
En plus de bâcher Gameblog, comme d'habitude. Mais finalement, Gameblog est moins tort que Gamekult, ce qui est quand même toujours très réjouissant, je trouve. Le professionnalisme, avant tout. Voilà, mais avant tout, nous allons faire un petit tour de table de l'actu, et je vais passer la main à Mecton, qui a une toute petite actu.
Merde, qu'est-ce que je voulais raconter? Le direct de demain. Annoncer, comme c'est si bien le faire Nintendo, donc annoncer cet après-midi, un direct demain 23h, donc a priori annoncé pour une durée de 30 minutes.
Et pas plus de détails,
voilà, donc en 30 minutes il peut s'en passer des trucs. Alors, je sais pas si vous voulez faire un petit jeu de pronostic ou...
Alors moi je dirais Bayonetta 3, premier trailer officiel de Bayonetta 3.
Mm-hmm. Mecton disait tout à l'heure en off un DLC pour Pokken et j'ai pleuré.
T'es vraiment un salaud, des goodies avec.
Oh, ouais. Oh putain! Ce serait Pokémon, donc ça je vois bien.
Je pense que Metroid Prime 4 serait peut-être un peu en avance, donc à mon avis on n'en entendra pas parler.
Donc après avant l'écran titre, on aurait le menu, tu penses?
C'est le générique de début, ouais. C'est moi ça me va bien, le générique de fin. Non, peut-être que. Enfin, ça m'étonnerait qu'on apprenne quelque chose sur Metroid Prime 4. Par contre, un DLC de Super Mario Odyssey ne m'étonnerait pas du tout. Un nouveau monde ou
un nouveau
pays.
C'est ce qui est en rumeur. Ça parle de deux DLC carrément, dont un dédié à Luigi's Mansion.
Oh.
C'est les rumeurs qui traînent, hein, mais voilà, celle-là sort un peu du lot.
Et qui rajouterait donc 144 lunes.
Personnellement, j'aimerais bien un peu plus de détails sur Octopath Traveler. La démo m'avait vraiment enchanté.
Surtout que le jeu sortirait au mois d'août de cette année.
Uh-huh.
Il y a eu des petites fuites, ça approche. C'est vrai que ce serait quand même bien de commencer à le présenter. Je sais plus qui c'est qui avait dit la semaine dernière, faut pas rêver, le 3 c'est dans 2-3 mois, ils vont pas tirer toutes leurs cartouches maintenant.
Donc pas Smash Bros.
Ça je ne sais pas.
Ouais, mais
je sais pas si c'est une grosse carte.
Des jeux. Ça fait loin jusqu'à le 3 quand même.
Bah, c'est ce que je me dis, moi, c'est pour ça que je pense qu'ils auraient quand même intérêt à faire monter la sauce, même si, globalement, le planning jusqu'à l'E3, il est connu. Il y a Kirby la semaine prochaine, il y a Nintendo Labo au mois d'avril, avec pas mal d'autres jeux qui sortent d'éditeurs tiers. Il y a Dark Souls Remaster, j'ai l'impression que Nintendo a envie de lui faire une petite place, parce qu'ils en ont parlé dans un direct, déjà, me semble-t-il.
Après, la rumeur qui monte, c'est le tonton Blizzard sur Nintendo.
Diablo 3,
Diablo 3, plus personne n'en parle, hein, sur PC.
Non, mais ça ferait grosse cartouche, quoi. En termes de communication, tu as une machine qui récupère une licence pas dégueulasse, quoi.
Bah, il n'est pas sorti sur PS4 et sur Xbox One, Diablo 3
Si. Mais sur une console Nintendo, je me rappelle pas avoir jamais joué à...
Et si, il y a StarCraft 64.
Joli, oh, joli, je m'écrase. Joli.
Et oui, voilà, dans vos culs.
Joli.
Après, qui est, sachez-le, une version pas dégueulasse du tout de StarCraft.
Après, c'est ce que disait Mecton tout à l'heure, enfin, hack and slash sur console, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Et c'est vrai que j'ai un ami qui a beaucoup joué, et quand je lui ai parlé... De la potentielle sortie de Diablo 3 sur Switch, le seul intérêt qu'il voyait, c'était les parties en LAN. Sinon, aucun intérêt.
Ouais.
Mais déjà, rien que ça, c'est énorme, parce que c'est vrai que les parties en LAN sur Switch, enfin, je veux dire, pour faire de temps en temps du Splatoon 2 avec mes collègues, donc oh, faire du Salmon Run, on est trois.
Oh.
Franchement, c'est vraiment bien le kiff.
Du coup, tu peux insulter les gens et ils t'entendent.
Exactement, tu peux les insulter, tu peux dire à gauche, tu peux dire à droite, tu peux dire Yassi, tu peux dire Yami. C'est quand même super agréable. Et je crois que... Enfin, j'ai un collègue qui n'est pas du tout Nintendo, pas du tout... Enfin, voilà, qui s'est acheté un Pro Controller pour pouvoir jouer au bureau à FIFA le midi.
Mais c'est marrant.
Voilà, donc ça commence quand même à faire des émules, malgré tout.
Après, du coup, pour le direct, je verrais bien, comme d'habitude, une série de plein de petits trailers d'indé ou de portage. Et c'est vrai qu'à mes yeux, c'est vraiment ce qui manque sur Switch, parce qu'au final, qu'il n'y ait pas beaucoup de jeux originaux, c'est pas très grave si au moins on arrive un peu à rapporter un peu les joueurs des autres consoles ou les joueurs du PC qui peuvent trouver leur bonheur sur Switch, quoi. C'est ça qui manque à mes yeux.
Bah, il y a déjà pas mal de trucs, hein.
Mais aux yeux du public, il n'y en a pas assez. Quoi.
Il n'y en a pas assez, bon.
Il faudrait déjà tous les jeux indés qui sortent, mais je parle en petits jeux, là. Et après, déjà, en portage, il faudrait qu'il y en ait un petit peu plus. Parce que c'est vrai que là, on se retrouve avec des Dark Souls Remastered, mais Dark Souls, c'est un jeu qui est sorti en quelle année ? 2008 ?
2008 ou 2009. Parce que je crois que 2007, ça devait être Demon's Souls, qui était, entre guillemets, le brouillon.
Ah, 2011, j'ai rien dit, pardon.
Et je pense que Dark Souls Remastered, c'est quand même une grosse sortie. Enfin, après, c'est pas... Bon, c'est quand même une assez grosse sortie, donc je dis pas non, c'est toujours pareil. Surtout que là, ça sort en même temps sur toutes les machines.
Non, oui, je suis d'accord, là, c'est une bonne idée, c'est vrai que c'est bien que ça arrive.
Ce qui va manquer, peut-être, moi je trouve que ce qui manquerait aujourd'hui, par exemple, c'est... On a eu Gear Club Unlimited, qui était un jeu de caisse. Ça manque, je trouve, de jeux un peu grand public de ce genre-là. C'est-à-dire que les jeux indés sympas, c'est bien. Très bien, mais ça attire pas tout le monde. Aujourd'hui, il manquerait du jeu un petit peu plus grand public au sens jeu de caisse, jeu de foot, FPS un peu sympa. C'est vrai que là, les FPS un peu sympa, il y a quand même
un Call of,
mine de rien,
ça attire du monde. Et si la console se vend, bah ça attire aussi les développeurs. Enfin, c'est un cercle vicieux, mais
c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, il manque peut-être un petit peu de jeu grand public. Enfin, au sens de public un peu moins niche, un peu moins fan de jeux vidéo, on va dire, des trucs un peu plus...
Mainstream.
Mainstream.
Faudrait faire un dojo bar dessus. Et ça tombe bien, il y a la Coupe du Monde de foot, sonné. Donc on fera émission grand public, dojo bar grand public.
Voilà, le dojo bar
pendant la finale. FIFA,
ouais.
Pendant la finale, on va organiser un tournoi parallèle. Ça va être bien.
Tu vas encore perdre
avec
arrête.
Un Twitch où tu seras habillé en supporter.
Exactement. Gros, tu sais que je suis division 2. Donc,
respect. Moi, je n'ose pas entraîner depuis que je t'ai battu. Donc,
respect, c'est tout.
Mais
voilà.
J'hésite à l'acheter en vrai maintenant.
En vrai, c'est quand même assez fun parce que c'est plutôt arcade. Et en vrai, maintenant que je mets des grosses pitances à mes collègues le midi, ça me fait bien plaisir. Voilà, Jérémy, si tu nous écoutes, hein, va te faire enculer. Non, mais voilà, c'est quand même intéressant. Je vais enchaîner avec la deuxième actu rigolote qui va être en deux parties. Connaissez-vous le SRB, cet organisme de régulation des jeux vidéo nord-américains ?
Oh bah non, Mortal, dis-nous en plus.
Le SRB, c'est les mecs qui
le
sont...
PEGI ?
Oui, c'est l'équivalent du PEGI, sauf que... Alors, c'est un peu particulier parce que le SRB, en fait, est un GIE, un groupement d'intérêt économique.
Ouais.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est le gouvernement américain qui a dit aux industriels du jeu vidéo, en 1991, à la suite de Night Trap, de la sortie de Night Trap, soit vous vous régulez, soit nous vous régulons. Et donc, les mecs ont créé le SRB et se sont auto-régulés. Donc, le SRB est payé par les éditeurs pour noter les jeux, c'est-à-dire pour aller dire c'est M, il y a du sang, il y a de la violence, il y a des gros mots, il y a des boobs. Voilà. C'est
donc,
leur taf.
Public.
Ou c'est tout public. Eh bien, il y a un sénateur du Kentucky, J'ai pas son nom malheureusement, j'ai juste retenu le fait qu'il était du Kentucky, qui vient de proposer à l'ESRB de mettre une taxe de 10% supplémentaire sur les jeux classés M, donc mature, c'est l'équivalent du 18+ américain.
Ouais.
Sachant que généralement les États-Unis sont beaucoup plus sévères sur la note mature qu'en Europe. C'est-à-dire typiquement, alors je suis pas certain pour Bayonetta 2, mais il y a des jeux qui sortent en 16+ en Europe et qui sortent en M aux États-Unis. Donc avec la notation maximale aux États-Unis, alors qu'en Europe ils sortent en 16+. Donc ils ont tendance à être à serrer un tout petit peu plus la vis, et il me semble que c'était le cas de Bayonetta 2, qui est rated M aux États-Unis et qui est seulement 16+ en Europe. Bon bref, c'est pas trop le sujet. Donc il dit, voilà, 10% de taxes supplémentaires sur les jeux notés M pour, je cite, à monter des cellules de soutien psychologique dans les écoles pour lutter contre la violence, notamment à la suite de la tuerie en Californie. Oui, parce que,
quel
évidemment,
bâtard.
C'est la faute des jeux vidéo violents. Ça me paraît complètement évident. C'est pas du tout le fait que les armes soient en libre circulation et que n'importe quel connard puisse en acheter avec même pas une pièce d'identité.
Bah, t'as jamais braqué une vieille avec une boîte de jeux ?
Ah bah, mais si !
Avec le blister, c'était mal, hein, ça coupe.
Voilà, je rappelle donc le problème. Hein, les États-Unis, 5000 morts par an par balle. L'Australie, 5 morts par an par balle. Voilà, faites le calcul, tout va bien. Et donc, toujours à l'ESRB, un truc qui est plutôt intéressant, là, pour le coup, c'est une initiative qui vient de l'ESRB lui-même, qui propose d'ajouter en info sur les jeux, en fait, une petite indication, exactement comme, je l'ai dit, nudité, violence, langage grossier, ainsi de suite. Il propose d'ajouter « Attention, ce jeu contient des microtransactions ».
Ah, ça, c'est pas con, ouais.
Je pense qu'effectivement, c'est de l'information, c'est à destination, je suppose, des parents, mais c'est de dire, attention, ce jeu contient des microtransactions, donc c'est peut-être pas bien.
C'est déjà obligatoire sur tout ce qui est application mobile sur Apple Store.
Ah, ça, je savais pas, tiens.
Mais depuis longtemps, parce qu'en fait, à chaque fois, il y a un petit onglet qui indique justement si on peut faire des achats ou pas avant même de télécharger le jeu.
Les codes, avec ce les sera prix. Une personne qui encule une autre.
Attention, ce jeu contient des microtransactions, t'auras une petite icône IA.
C'est Konami. Bâtard.
Ou quoi. Voilà. Ou Konami. Est-ce que je vous fais la Konami pour
rigoler? Oui, oui,
allez,
oui.
Je vous fais la Konami. Connaissez-vous Metal Gear Survive?
Oui.
Alors, Metal Gear Survive est déjà un jeu assez controversé puisque c'est le premier Metal Gear solide.
Parce que c'est nul.
Je ne me permets pas de jugement. C'est le premier Metal Gear solide qui n'est pas signé Hideo Kojima. C'est Konami qui le sort tout seul. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que c'est un jeu qui est très orienté multijoueur, ce qui est pas fréquent pour les Metal Gear Solid. Il me semble qu'il y a un opus sur PSP qui est très orienté multijoueur, mais c'est tout. Qui reprend le Fox Engine de Metal Gear Solid 5, et qui en fait le transforme en une espèce de, voilà, de jeu multijoueur, bref. Et Konami a décidé que Electronic Arts n'était pas allé assez loin. Et donc, il y a des microtransactions dans le jeu. Et en fait, quand vous associez le. Enfin, quand vous voulez sauvegarder le jeu, vous avez un slot de sauvegarde seulement par compte PlayStation Network ou Xbox Live. Et donc, pour ajouter un deuxième slot de sauvegarde, eh bien, il faut payer 10$. Voilà.
C'est super.
Comme si. Enfin, je veux dire, c'est... on tombe vraiment dans le ridicule, je trouve.
Ça fait cher le kilo-octet.
C'est quand même. Ben, attends, ça coûte cher
du
le kilo-octet.
Du coup, citation de Kojima, fuck you, Konami.
C'est presque ça. Voilà, et on va terminer ce tour de table de l'actu par Drosgar qui veut parler chiffres parce que comme
j'adore l'argent.
Voilà. C'est notre projet. Comme Oscar nous a quitté, voilà, il faut bien quelqu'un pour remplacer les gros nerds qui aiment bien les chiffres. Donc Drosgar, je t'en prie.
Genre vivement, ça, bientôt sera les vacances, je vais commencer à faire des grands graphiques avec plein de couleurs et tout. Oscar, après, il va venir embaucher. Donc, je compte toutes les semaines vous faire parvenir le petit rapport du sel qui fait état des jeux les plus vendus sur la semaine. Donc là, sur la semaine 8, les jeux les plus vendus en France sont Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda Breath of the Wild, Dragon Ball FighterZ et Splatoon 2. C'est-à-dire qu'on a quand même 4 jeux Nintendo sur Switch qui se placent dans le top 5 des jeux physiques les plus vendus en France et je trouve
et
ça beau. Merci, messieurs, dames.
Et dont un à un an.
Ouais. Et
dont c'est vrai.
Dont deux ont un an, parce que Mario Kart 8 Deluxe, il a presque un an. Hein.
Pas loin, là.
Putain, c'est quand même balèze, hein.
Et si on regarde les ventes de PC, toutes les putains de semaines, depuis que je suis gamin et que je regarde les news de vidéo.com, tu verras les Sims 5. Dans les ventes. Non, ouais, mais parfois. Mais là, même pas, parce qu'on voit que le top 3 en vente PC, et on voit les putains de Sims.
Oui, parce que c'est les ventes physiques.
Oui, parce qu'il y a ta petite sœur qui achète des CD sur PC.
Il n'y a pas Payday 2 ?
Non !
Non. Mais non, pourquoi, alors... pourquoi y aurait-il Payday 2 ?
Bon, notre cher auditeur Alité me dit, c'est marrant, il n'y a pas FIFA.
Alors, il y a FIFA sur Xbox One et sur PlayStation 4 dans les classements par console. Donc, ils sont 3e sur les deux consoles. Par contre, c'est vrai que dans le classement général interconsole, non. Et heureusement.
Il me semble qu'en Grande-Bretagne, la version Switch de FIFA avait fait un gros bond quand le prix était passé à c'est genre 30 livres au lieu de 45 ou 50 livres.
Oh.
Et le truc a fait un énorme bond dans les ventes. Ce qui montre bien, je pense, que les gens ont envie d'avoir ce genre de jeu, mais ils n'ont pas envie de foutre 60 balles dedans.
Parce que c'est vrai, parfaitement ça fait mal. Hein. Moi, au-dessus de 30 euros, ça me fait mal quand même de dépenser.
Ah, mais moi, je comprends et je cautionne parfaitement. Essayer de ne pas jouer trop cher, c'est quand même une motivation comme une autre. Bref, nous allons faire une petite pause musicale. Alors, c'est un morceau que mes enfants ont choisi. J'ai demandé au gamin, il faut une musique de jeu vidéo pour ce soir, qu'est-ce que vous voulez qu'on mette dans le dojo bar ce soir ? Alors, heureusement, il ne l'écoute pas, je rappelle que le dojo est Peggy 18, lui. Il est rated M, bientôt 10% supplémentaire pour l'écouter.
Pour financer la caméra.
C'est faux, Drosgar est là.
Il y a Galaxis surtout, il a même pas 18 ans. Allez, rentre chez soi.
Voilà, bonsoir Galaxis qui nous a rejoint.
Oui.
Et moi je propose sinon que pour 10$ de plus, vous avez une news supplémentaire pour le tour de table de l'actu.
Mais non, c'est déjà une... Ok. J'ai du mal à...
Voilà, t'as pas payé, t'as de la merde.
C'est déjà une trop grosse valeur pour 10$. Il faut un truc encore plus avec deux tics.
Ah merde, oui, non, c'est vrai.
Pour 10$, tu as la blague à la fin de l'émission.
Voilà, ça c'est bien ça. Pour 10$, tu as la blague. D'ailleurs, il y a une blague à la fin de l'émission. Parce que vous avez tous gentiment payé 10$. Bref.
Ah, merde.
Donc mes enfants ont choisi un morceau de la BO de Super Mario Odyssey. Ils ont choisi le Madame Brooder Battle. C'est la grosse avec son chien Chomp, en fait. La bataille avec la grosse, le gros lapin, la grosse lapine, avec le chien Chomp. Avec un chapeau.
Oui, voilà. Qu'elle est toute moche.
Qu'elle est toute moche. Donc c'est ça que mes enfants choisissent, on dit que ça ce sera un bon choix. Voilà.
Bande de trolls.
Mais non, mais c'est presque ça. Non, mais attends, ils sont pires que ce que t'imagines. Bref, on se retrouve dans un tout petit peu moins de 4 minutes. À tout de suite.
Je lui ai dit, j'ai acheté une PS Vita.
Tour.
Vous ne savez pas ce qui se passe en off et je suis pas sûr que ce soit une bonne idée que vous le sachiez.
Ah bah vivement le bêtisier mortel, hein, tu sais ce qu'on lance depuis 2013.
Alors ce qui va se passer, D'abord tu vas te niquer.
Pas de soucis, j'adore ça.
Est-ce qu'il sera annoncé lors du Nintendo Direct demain?
Que de la gueule, on leur demande de l'annoncer.
And you're introducing the best of.
The best of. Bref, bon, c'était pas le thème de l'émission. Et puis je vous emmerde.
Professionnel.
La Switch a un an. Comme vous le savez, joyeux anniversaire. Non, c'est bon, on l'a déjà fait tout à l'heure. On va pas, voilà. Comme vous le savez, elle marche très bien. C'est-à-dire qu'il s'est écoulé en un an plus de Switch que de Wii U durant toute sa vie. Ce qui est quand même... Enfin voilà, ça fait plaisir. Et l'idée, c'est de se poser la question du... Alors, en plus de se foutre de la gueule de Gamekult, oui, on va y venir, promis, c'était de se poser la question de bah, qu'est-ce qui fait que ça a finalement marché. Il y a plein de gens qui avaient des doutes sur le concept. Alors, on a cité Gamekult, ouais, et ils l'ont bien mérité, il faut être clair.
Tous les voyants sont au rouge.
Tous les voyants sont au rouge, Nintendo va mourir. Je crois que c'est Puyo qui avait dit c'est encore plus compliqué que la Wii U. Mais putain, mec, je sais pas ce que ça va être compliqué.
Alors, t'as Erwan Cario sur écran.fr qui a dit la même chose. Plus voilà, compliqué, les gens comprendront jamais.
Les gens comprendront jamais. C'est, je crois que Tonton Tardy, big up bro, nous avait dit c'est là que j'ai arrêté d'écouter le podcast Silence on joue.
Oui, je pense bien qu'elle est là.
Parce qu'effectivement, c'est, je suis désolé, c'est, oui, voilà, c'est puni, perdu. À un moment, faut arrêter. Donc, effectivement, c'est quand même assez problématique.
Ce genre ouais, de dommage, dommage.
Bah ouais, c'est un peu dommage. Donc, la question, c'est voilà, il y a plein de gens qui se sont plantés. Nous aussi, on avait des inquiétudes quand même sur certaines choses, notamment est-ce que le concept va marcher, est-ce que les gens vont adhérer, est-ce que finalement la machine va se retrouver dans tous les foyers. On constate que ça marche plutôt bien. Il y a 1 million de Switch en France, il y en a 14,2 millions dans le monde. D'ailleurs, autre petite statistique rigolote, la France est du coup le 3e marché de Nintendo. Et quand on dit le 3e marché, c'est vraiment le 3e marché. C'est pas en valeur absolue le 3e marché.
C'est-à-dire que... de l'Europe ou...
Non, mondial. Le premier marché, c'est le Japon, le deuxième, c'est les États-Unis, le troisième, c'est la France.
Cette classe.
Moi, je dis que c'est la classe internationale. Donc, j'ai pas les chiffres exacts, mais j'ai vu un joli chart fait par...
Voilà. Il paraît que les Français ont toujours été un peu N-sex. Hein.
Alors, les Français sont très N-sex en réalité.
Ça change les Britanniques.
Alors, les Britanniques,
je confirme.
Ils font rien comme tout le monde.
Non, c'est les PS4, les Anglais. Mais parce qu'ils n'ont pas de goût, ils mangent du pudding. Qu'est-ce que tu veux qu'ils aient du goût dans les consoles
Xbox
de
One,
jeu quoi.
L'Xbox One. La Xbox, elle marche en Europe. La Xbox, l'original, n'a marché en Europe qu'en Angleterre. Tout le temps, tous les autres pays, ça a été un four. La Xbox 360, c'est pareil. Enfin, ça n'a pas été un four parce que
c'était. Même en Pologne.
Ouais, relatif.
Même en Pologne.
Ça a été un four.
Oh le con.
À te niquer. Non, mais par exemple, l'Allemagne qui devrait être. Qui est, je crois, le premier marché du jeu vidéo en Europe. Est en fait pas un marché très important pour Nintendo parce que l'Allemagne joue énormément sur PC. Les Allemands jouent beaucoup plus sur PC en réalité que les autres Européens. Et du coup, bah, bon, voilà, on n'est pas là pour discuter de ça, mais c'est vrai que la France est aujourd'hui le 3e pays dans lequel la Switch est le plus vendue. Et c'est pas par rapport à sa population, hein, c'est en valeur absolue. Donc c'est quand même énorme.
C'est ouf.
Donc, vive la République et vive la France. Au revoir. Vous êtes tellement prévisible en fait, c'est vraiment, c'est juste... Vous êtes mes petites marionnettes, comme ça, je vous manipule.
Elle est où ta main? Enlève ta main.
Ce n'est pas ce genre de marionnette.
Où est-ce que t'as touché le monsieur?
Merci donc... Macron pour la vente des Switch.
Non, mais va te niquer. Voilà. Donc...
Démerde-toi pour enchaîner.
Ouais. J'ai l'habitude de rattraper vos conneries. Hein. Je suis un professionnel.
C'est parce que Dimuse, hein.
Non, Muse a dit que nous n'étions pas professionnels. Mais je pense qu'elle a raison. Donc, qu'est-ce qui a fait véritablement le succès de la Switch? Est-ce que vous pensez que les gens ont super adhéré au concept de base qui est ma console de salon que j'emporte partout ou ma console portable que je peux brancher sur ma télé vite fait? Parce que ça a déjà existé, je veux dire, la PSP, on peut la brancher sur la télé, la PS Vita aussi. Donc il n'y a pas de nouveauté particulière là-dessus.
Ouais, mais ce coup-ci, ça a été compris.
J'aimerais faire une analyse sociologique sur mon quartier. En fait, j'ai l'impression déjà que dans mon entourage... Exactement. Dans mon entourage, du coup, des personnes qui ont entre 20 et 23 ans, si vous voulez, les consoles portables, donc tout le monde a eu une DS, parce qu'on était au début du collège. Par contre, pour ce qui est de la 3DS, c'est vrai que... Quoi ?
Début du collège, DS ? Ah bah, putain, mais ouais. Pardon. Oui,
bah
oui,
pour nous, bah, oui, pas pour toi forcément, toi t'étais déjà enceinte.
J'étais en primaire.
Oh putain, Galaxis.
Oh vas-y, Galaxis.
Donc tout le monde avait une DS, par contre c'est vrai qu'au moment de la 3DS, du coup les gens commençaient à être grands, et ça mélangé au fait qu'ils savent pas vraiment que ça soit une vraie console, ça a fait un peu le phénomène Wii U pour eux, si vous voulez. Donc c'est vrai que là, il y a des gens qui ont maintenant, donc plus de 20 ans, et qui se retrouve à peut-être vouloir acheter une console portable parce que bah, la Switch elle a pas mal, c'est une vraie console, genre pour eux la dernière console qu'ils ont achetée c'était la DS il y a bah, plus de 10 ans, c'est 10 ans, en 2007.
Non, mais entre temps ils ont eu l'âge bête aussi. Il y a l'adolescence.
Oui, ils ont eu l'âge bête, bien sûr. Mais là, du coup, c'est vrai qu'ils font des soirées et ils se disent que peut-être que jouer à Mario Kart avant de partir en soirée, ça peut être sympa. Et c'est vrai que j'ai, dans mon entourage, certaines personnes qui font ça maintenant. Et c'est pas du tout des personnes qui auraient acheté les consoles entre-temps, tu vois. Ou alors, qui auraient acheté une PS4, si c'était vraiment bah, des mecs qui jouent un peu à FIFA ou à Call of. Et c'est vrai que c'était pas sur des consoles Nintendo qui pouvaient trouver ce genre de jeu.
Mais du coup, c'est plutôt des gens qui ont un profil utilisateur nomade et qui se disent c'est cool, je peux la trimballer où je veux, je peux l'amener en soirée, je peux on peut se faire un petit one to switch. Ah putain,
je la prends en vacances. Ah oh, putain non, pas ça.
Voilà, je la prends en vacances, mais
je l'emmène au boulot.
Moi je les gens qui sont dans mon entourage, on est plus de des trentenaires.
Oui, big up.
35
Non, de trentenaires. Non, pas si vieux que ça.
C'est dans la tête.
non mais
faut pas grandir, c'est un piège.
J'ai un entourage qui est plus composé de trentenaires, que ce soit mes collègues, que ce soit mes amis. Aujourd'hui, on vieillit tous. Et c'est vrai que les gens que je connais qui ont acheté une Switch, c'est effectivement pour l'amener au boulot, pour pouvoir faire un FIFA entre midi et deux. Voilà. Et le fait que ce soit une console transportable, je connais beaucoup de gens qui l'utilisent justement pour ça. C'est-à-dire qui finalement... J'ai notamment un collègue qui voyage énormément, c'est-à-dire qui se retrouve très souvent dans des pays étrangers et autres, et lui ça a changé sa vie, hein, parce que dans l'avion il peut jouer à la Switch, il fait chier personne, et quand il est à l'hôtel en réalité, bah, il pose sa Switch sur la tablette à côté de son lit, il prend sa manette pro et en fait il joue comme ça. Et donc c'est un truc qu'il n'aurait jamais pu faire avec une PS4, parce que bah, trimballer ta PS4, bon, c'est déjà plus gros.
Et ta télé.
Et en plus, t'es obligé de la brancher sur une télé, donc c'est pas... Alors effectivement, quand t'es à l'hôtel, c'est valable, mais ça reste quand même...
Dans l'avion, c'est un peu dur.
Dans l'avion, c'est plus compliqué.
Tu même prends si j'ai un bon deuxième siège pour la télé.
Ouais, voilà, même si j'ai bon espoir qu'un jour, les compagnies aériennes te laissent une prise HDMI sur ton siège pour pouvoir brancher ce que tu veux. Mais, enfin voilà, il y a une vraie problématique là-dessus qui est un petit peu embêtante, et j'ai l'impression que le simple fait d'avoir une console transportable... Donc un truc qui est quand même suffisamment de patate et qui puisse se poser bêtement sur une table pour pouvoir jouer avec une vraie manette, j'ai l'impression que ça en a, on va dire, séduit certains. Est-ce que vous pensez que un des concepts qui était vendu, c'est-à-dire t'as toujours deux manettes sur toi, tu peux détacher les Joy-Con, le filer au mec d'à côté et paf c'est parti, tu te fais un Mario Kart 8 Deluxe à deux alors que t'as juste trimballé ta console, est-ce que vous pensez que ça c'est quelque chose qui a accroché ou finalement ça reste une utilisation assez marginale?
Je peux balancer une anecdote?
Vas-y, ouais. On est là pour ça.
Le week-end du 3 mars 2017, c'était un week-end pour moi qui tombait pile dans une mission à déplacement de 2 semaines. Autant te dire que la 2e semaine, mon voyage en train était juste parfait. Et j'ai souvenir, donc j'avais pris avec Zelda et Bomberman, j'ai souvenir dans le train d'un mec qui reluquait la console, donc voilà, tu vois, la nouveauté qui venait de sortir et tout. Et le truc que normalement tu ne vois que dans les pubs. J'ai détaché mes Joy-Con, je lui en ai filé un et on s'est fait un Bomberman à deux dans le train.
Tu l'as pécho comme le mec de l'aéroport ?
T'es con, putain.
Alors, j'ai le même genre d'anecdote. Il se trouve qu'il y a, un peu moins d'un an, j'étais en train de faire un barbecue chez une amie de ma femme. Chez quelqu'un. Et son mâle dominant à cette personne, Fabrice, big up si tu nous écoutes, est parti genre couper du bois ou je sais pas quoi, et en fait il s'est tranché, il s'est fait une magnifique couverture sur l'avant-bras, mais genre de 15 cm. Il a pas coupé le muscle, il a coupé juste la peau et le gras, c'était dégueulasse.
Ah mais vous l'avez bouffé?
Non mais d'ailleurs il a fallu que je l'emmène aux urgences. Les urgences
pas le gras, c'est pas bon.
Voilà, les urgences de Houdan, dans le 78, hein. Donc un magnifique petit village pittoresque, tout ça. Et donc moi j'avais ma Switch qui était dans le coffre, parce que je revenais de je sais pas où, donc j'emmène le mec aux urgences, et on était aux urgences, faut pouvoir ôter 2 heures, et on s'est dit bah vas-y, on s'en fout, on se fait un Tetris,
yeah.
Puyo Puyo Tetris. Et il y a une des personnes qui attendait aux urgences, qui a dit ah c'est la nouvelle Nintendo Switch machin, j'ai fait bah vas-y tiens, c'est parti.
Ton pote il s'est 200 à côté, mais toi pas de soucis. Hein.
Non et puis c'est même pas le sens, je te dis, c'est coupé juste la peau et le gras en fait, il saignait pas.
Je peux pas mettre pause, tu vas crever.
Voilà, donc effectivement, ça fonctionne. Après, je sais pas si ça reste pas quand même, même aujourd'hui, une utilisation relativement marginale.
C'est-à-dire... J'en sais rien là. Tu vois, on est en train de me glisser. Par contre, il a raison, moi je joue pas du tout à la console, je me suis demandé si j'allais pas la prendre juste parce qu'elle est originale.
Alors si t'es excité, c'est, si, con, si c'est juste que je prends le truc pour le concept, c'était...
Sans le jeu, ça servira pas à grand chose. Ah, mais...
Allez-y, hein, ça servira à notre bonus de fin d'année. Chaque fois qu'une fiche se vend en France, on touche 1 euro.
Mais comme quoi, vraiment, ce concept, il parle immédiatement au... Bah, au plus grand nombre, quoi. Je sais pas si tu te rappelles, avec Méduse, on avait un petit concours sur le forum à celui qui arriverait à en glisser le plus possible au boulot.
Oui, voilà, mais on ne rapporte rien derrière. Mais effectivement, je les ai vus pulluler au boulot, et effectivement, de gens qui n'avaient pas acheté de console depuis la Wii, dans le meilleur des cas, et même de gens qui ont une PS4 et finalement se sont dit, j'ai même un collègue qui est en train de dire, la PS4, je vais la revendre, je joue plus avec. Parce que finalement, la Switch a remplacé complètement le truc.
C'est un très bon lecteur Netflix.
Oui, d'accord. Je suis pas sûr que ce soit un truc qui compte. Est-ce que vous pensez que, parce qu'on a parlé des portages Wii U la semaine dernière, est-ce que vous pensez que le evil plan de Nintendo, le plan diabolique et machiavélique de Nintendo qui consistait à dire « Ah, regardez, y a Zelda, qui est un jeu Wii U. Dans 2 mois, il y a Mario Kart 8 Deluxe, qui est un jeu Wii U, mais qu'ils ont jamais prononcé le mot Wii U dans la pub de Mario Kart 8 Deluxe, c'était pas
la
Switch.
Pub de Breath of the Wild non plus. Hein.
Dans la pub de Breath of the Wild non plus.
Ils ont dégagé la Wii U. Hein.
Ils ont complètement oublié la Wii U, et en fait, il y a plein de jeux où finalement, les portages dont on a parlé la semaine dernière, c'est du recyclage. Mais c'est du recyclage dans lequel ils n'ont jamais mentionné la Wii U, jamais mentionné le fait que le jeu existait déjà, c'est juste... Regardez, il y a des jeux sur Switch qui sortent. Regardez, tous les mois, il y a un gros jeu qui sort. Effectivement, il y en a des originaux dans le lot, mais...
Je pense qu'en 2019, si tu prononces le mot Wii U, t'as les Yakuza qui débarquent chez toi et qui te zigouillent.
C'est possible. Donc, est-ce que vous pensez que ce plan machiavélique qui consiste à dire, on va faire des portages, mais on va surtout pas dire que c'est des portages, on va dire que c'est des jeux originaux, et on va alimenter et remplir le catalogue avec des vieilleries, entre guillemets, hein, je mets des gros guillemets, mais des vieilleries dont on sait qu'elles vont se vendre, parce que si la console se vend, on va attiser le feu le plus possible. Mario Kart 8 Deluxe, c'était absolument pas nécessaire, mais mine de rien, ça s'est vendu comme des petits pains, parce que forcément, les gens en voulaient. Est-ce que vous croyez que ça fait partie, ça contribue éventuellement au succès, ou finalement pas tant que ça?
Ouais.
Bah, pour répéter la question.
Évidemment, parce que... Non mais déjà, enfin je le vois, genre rien que le fait d'avoir déjà 2 manettes intégrées dans la console, ça aide énormément. Enfin c'est pour ça que j'ai pris la Switch avec Mario Kart 8, parce que je vais pas galérer à devoir racheter une manette. De l'argent, une manette. Et je rappelle que Joy-Con c'est entre genre 70 et 90.
La paire.
Du coup, je savais que j'avais pas galéré, qu'on pouvait directement jouer à deux.
Et ouais, pour c'est quand même chose, un
énorme
pas
bonus quoi. Non mais j'ai une famille.
Ah oui, c'est vrai que t'as un petit frère.
Voilà. Et là on s'est acheté une autre paire et c'est vrai que c'est vachement pratique quoi. De pouvoir en fait, en moitié moins d'argent quasiment, parce que les manettes Xbox ou PS4 c'est quasiment aussi cher, genre à 10 euros près, pouvoir jouer à 4 et non pas à 2, et non pas tout seul. Le fait en fait de... Enfin, le fait d'être tourné comme l'a toujours fait Nintendo vers la coop, etc., à mon avis, ça a beaucoup aidé aux ventes. Et justement, pour ces portages qui étaient pensés pour une console qui était familiale, la Wii U. Même si la Switch l'est moins officiellement, mais en vrai, ça reste Nintendo. Quoi, donc,
ça reste super convivial quand même, dans la mesure où, effectivement, comme on disait tout à l'heure, le concept de « j'ai toujours 2 manettes sur moi », c'est quand même c'est assez extraordinaire dans le principe. Ça me rappelle quand t'achetais ta Super NES il y a 25 ans. Elle était vendue avec 2 manettes. C'est un truc qui s'est perdu avec la N64, qui était vendue qu'avec une manette, avec la GameCube, qui était vendue qu'avec une manette, avec la Wii, qui était vendue qu'avec une seule Wiimote, alors que c'est évident que c'était un truc qui était ultra familial, mais il fallait cracher un max pour avoir une Wiimote. Et là, tout d'un coup, on revient à... Bah oui, mais même chez Sony, je crois qu'il n'y a jamais eu de console vendue avec 2 manettes, même les PlayStation étaient vendues, pour moi, avec une seule manette. Je pourrais me tromper.
Il y a des packs en fin de vie ou des trucs comme ça, je sais pas.
Ouais, il y a toujours. Bah, c'est même pour la Xbox. Bah, je suis plus Xbox pour le coup, je connais. Enfin, voilà, mais je veux dire, sauf la Xenoxobix. le truc, c'est que c'est. Elle est vendue qu'avec une manette, sauf un peu plus tard où t'as des packs de manettes, genre avec un jeu, genre FIFA machin. ça reste plus cher au nombre de manettes qu'une Switch. Après, tu peux pas jouer à tous les jeux de la Switch avec un seul Joy-Con.
Et il y a quand même pas mal de jeux qu'on fait l'effort. Il y a quand même pas mal de jeux qu'on fait l'effort de s'adapter.
C'est vrai.
Même Mario Odyssey, qui est pas, parce que le deuxième, le stick de droite sert à diriger la caméra et c'est vachement important. Ils ont réussi à l'adapter. Tu maintiens X et en fait tu diriges la caméra. Et dans le contexte de ce jeu-là, ça marche pas si mal que ça en plus.
Ah ouais. Je sais pas. Je croyais qu'il fallait genre que Capi pouvait être avec une seule. Un seul Joy-Con, mais je pensais qu'il en fallait deux justement pour la caméra.
Bah non, pas du tout. En fait, tu peux mettre Mario avec le Joy-Con de gauche ou de droite d'ailleurs, Capi avec le Joy-Con de gauche ou de droite aussi. Et en fait, pour diriger la caméra, tu maintiens le bouton X et tu fais juste. Enfin, le bouton du haut, du coup, parce que c'est un Joy-Con, donc voilà. Tu maintiens le bouton du haut et en fait, tu diriges la caméra avec le stick de gauche. Voilà. C'est une petite compensation, mais c'est vrai qu'on n'a pas besoin de contrôler en permanence la caméra parce que la caméra automatique marche plutôt bien dans l'ensemble. Donc là, au moment où tu as besoin de regarder sur un arbor, au-dessus d'un truc et tout ça, pour aller faire vraiment de l'observation, bah, tu peux le faire sans avoir trop de contraintes. C'est pas l'idéal, mais ça fonctionne. C'est une adaptation, mais qui marche relativement bien. Est-ce que vous pensez que le soutien des indés a été un des facteurs ? Parce qu'on a parlé donc, du concept de base, de la portabilité, les portages Wii U en mode fufu. Il y a aussi un autre facteur qui a été extrêmement important cette année pour Nintendo, c'est le soutien des indépendants et aux indépendants. C'est-à-dire que non seulement Nintendo a énormément mis en avant les jeux indés, mais les développeurs indés ont fini par dire eux-mêmes « Putain, on en vend beaucoup plus sur Switch qu'ailleurs, donc on y va ». Est-ce que vous pensez que ça, c'est un facteur de succès auprès du grand public ou peut-être plus d'un public de niche ?
Bah, tu vois, personnellement, je sais pas si c'est succès ou pas. Je sais que le fait que la console soit portable et portable, transportable, des petits jeux indés comme ça, j'en ai jamais bouffé autant, quoi.
Ah oui, donc toi, ça a vraiment été un facteur. C'est-à-dire que tu veux dire, tu vas pas acheter des petits jeux indés sur PC parce que finalement, c'est pas portable, c'est pas pratique.
Voilà. Là, le petit jeu, s'il est dispo sur plusieurs plateformes, en priorité, je le prendrai sur Switch.
Même s'il est plus cher.
Même s'il est un chouï plus cher, oui, je me suis fait avoir, oui.
Bah, non mais moi, je parlais même pas de ça, mais ça me paraît logique, la portabilité ça se paye.
Je sais pas, mais non, mais clairement le fait qu'elle soit que je puisse embarquer mon petit jeu dans le train, impeccable.
Drosgar, oui.
Pour moi au final le dilemme est un peu plus compliqué, dans le sens où j'achète depuis maintenant des années des Humble Bundle et je suis abonné depuis le tout début au Monthly Bundle. Humble Monthly, ouais c'est ça.
Ce
qui fait que, oui, j'ai 600 jeux sur Steam, et encore, je ne les ai pas tous enregistrés, et ce qui fait qu'en général, les jeux indés rentrent dedans, et j'ai rarement besoin de les acheter à côté, en fait. À moins qu'il y ait un jeu indé qui me fasse vraiment très envie, où là, bah, je vais essayer de guetter un peu les promos pour l'avoir plus tôt, c'est vrai que je vais plutôt avoir tendance d'y jouer une fois que je l'aurai, parce que je sais que je vais l'avoir un jour ou l'autre. Et du coup, c'est vrai que, pour moi... Pardon, pour moi c'est un peu plus compliqué de me dire que je vais racheter le jeu sur console alors que je sais que je vais l'avoir pertinemment sur PC. Et c'est vrai que je me suis pris Stardew Valley parce qu'il y avait un peu une hype autour de ça et je suis content parce que c'est vrai que c'est plus confortable de jouer dans mon canapé. Mais d'un côté à chaque fois je me dis que j'ai l'impression de balancer un peu de l'argent en l'air. Je suis content parce que c'est quand même de l'argent pour un développeur indépendant. Et ça, c'est le peu d'esprit de gauche que j'ai qui ressort. Mais au final...
L'argent.
Mais au final, c'est vrai que ça reste toujours un peu compliqué de me prononcer là-dessus. Après, lorsque je vois les gens que je suis sur Twitter en général, ils sont tous très contents d'acheter des jeux indés sur Switch, même s'ils ont en général aussi tous des abonnements à Humble Bundle. Et ils préfèrent justement les acheter aussi pour y jouer en mode portable.
En fait, l'argument de base, ça a l'air de dire... Ce jeu indépendant est drôlement bien. Si je l'achète sur Steam, je le paye moins cher, mais je ne pourrais pas l'emporter avec moi. Et j'ai l'impression que, enfin, ça fait aussi partie des arguments. On parlait de portabilité, on est toujours là-dedans. Hein. Le simple fait de pouvoir trimballer ton Celeste ou ton D&D's Nigh ou ton Cave Story Plus ou tout ce que tu peux imaginer comme jeu, Tiny Barbarian DX, Retro Reticency Rampage, et il y en a des dizaines de The Mummy Demastered, Big Up Tardy. Rien que le fait de pouvoir aller le trimballer partout, c'est quand même un argument non négligeable. Alors effectivement, il y en a quelques-uns par contre qui sont sortis sur Android ou sur iOS. Là, je sais pas si ça, du coup, ça fait pas un peu de concurrence à la Switch d'une certaine manière. Je suis pas certain parce que c'est quand même pas aussi confort.
Non, parce que t'as les manettes quand même. Enfin, je veux dire, c'est encore une fois les manettes quoi, genre c'est vachement pratique. Quand je vois Overcooked, penser regretter de l'acheter, je me dis bon c'est 20 balles, c'est pas non plus voilà. Et j'ai mis et enfin le déjà là ça fait quoi, ça fait même pas 2 semaines le temps qu'on a passé dessus quoi, avec les potes, avec la famille, avec c'est et le fait de pouvoir avoir comme ça, de pouvoir jouer à 4 très facilement et de l'avoir autant sur un grand écran que sur de pouvoir le mettre sur les genoux quand on a besoin de faire autre chose quoi, c'est tellement pratique.
Comme un enfant.
Et je... C'est quoi?
Putain, non, c'est putain, dégueulasse.
C'est dégueulasse.
Prendre un enfant par la main.
Mais horrible, quoi. Et c'est
Yves Dutel,
c'est vraiment beaucoup
prat. Big up.
Encore vivant, lui.
Non.
C'est pas bien, c'est pas bien.
Il est sûr qu'il dérive dans des trucs chelous à chaque fois.
C'est comme d'habitude, hein, j'ai envie de te dire, cette émission... Non, c'est pas bien, parce que ce n'est pas une émission de Gaudriol où l'on fanfaronne à tout va.
Non.
Mais donc, pour, enfin,
professionnel.
Donc, les indés ne sont pas vraiment un argument. Par contre, les indés transportables, c'est un argument.
Ouais,
c'est ça.
C'est plutôt ça que vous êtes en train de me dire, de ce que vous voyez dans votre entourage et même de votre expérience personnelle.
Au final, toutes les consoles vendent des indés maintenant. Et enfin, même une PS4. Je me souviens justement lorsqu'il y avait l'abonnement PlayStation Plus, c'est ça?
Oui, c'est
ouais.
Ça.
Ouais. J'allais souvent chez un pote parce qu'il avait tous les indés du moment, il avait Rocket League, il avait Towerfall, et c'était vachement sympa justement qu'il ait tout inclus en son abonnement. Mais au final, voilà, l'argument à la transportabilité, c'est vraiment ce qui me fait à chaque fois hésiter en me disant putain, mais est-ce que ça vaut le coup que je le prenne là ou pas? Et Overcooked me tente, Rocket League me tente, alors que bah, j'ai déjà les deux sur PC. Et que Rocket League, j'ai déjà peut-être 200 heures dessus.
Ouais, et Rocket League sur Switch, c'est cool parce que c'est pareil, tu peux y jouer avec tes collègues au bureau.
Ouais, mais c'est moche.
Et ça, c'est la classe. Alors, le problème, c'est qu'il faut un exemplaire du jeu par collègue, et pour l'instant, malheureusement, pas eu de chance là-dessus.
Il n'y a pas d'écran splitté.
Si, il y a de l'écran splitté, mais c'est seulement à 2. Et du coup, alors, tu peux y jouer effectivement avec ton collègue, voilà. Mais une Switch contre une autre Switch en jeu vraiment purement local, moi, ça me ferait bien triper. Et pour l'instant, je ne peux pas, c'est un peu dommage.
Tiens, quand les soirées Mario Kart de jeu bar, quoi.
Mais un jour on fera ça.
Elles ont lieu, mais t'es pas invité.
Ah.
En fait, le problème, c'est... Alors, je sais qu'il y en a quelques-uns qui vivent en région parisienne, mais pas tout le monde. Le vendredi, quand je Twitch, il faudrait que j'arrive à inviter des gens. Alors, le problème, c'est qu'il faut quand même se déplacer. Il y a quand même un peu de logistique. Mais il faudrait vraiment que j'arrive à inviter des gens, parce que je pense que ça pourrait quand même être assez fandard à faire. Il faudrait bien sélectionner les jeux avant. C'est pas toujours si évident que ça, en fait, de choisir des jeux qui se prêtent bien au multijoueur, se prêtent bien au stream, et ainsi de suite. C'est pas... C'est un art, ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est une science. Enfin, presque.
Des vlogs, on va à DS in Paris.
Alors, je sais pas si... Est-ce que DS in Paris commence à faire de la Switch? Évidemment que oui.
Oui, il y a de la Switch. Je viens de tomber sur un tweet. Bon, alors, rendez-vous pour le prochain rassemblement Switch in Paris, ce jeudi 8, de 19h à minuit. Bon, le jeudi, quoi, mais...
Ah, ils vont louper le direct.
Non, justement, on regardera le direct à 23h.
Oh.
Alors, bien joué, priorité au Twitter, Vince956 qui nous dit « Entièrement d'accord sur les indés, avoir les jeux en mode portable, c'est top !»
Oui, mais je pense qu'en fait, c'est peut-être aussi pour ça que les indés marchent bien sur Switch, c'est parce qu'effectivement, les gens se disent « Je peux l'avoir sur PC, je peux l'avoir dans le métro !» Et franchement, ouais, non, mais tu rigoles, mais je suis désolé, c'est un vrai argument.
Ouais, mais je suis d'accord.
Un autre petit truc que j'adore, je sais pas si t'avais prévu d'en parler, le système de veille.
Ah, le système de veille actif,
c'est
j'avais
complètement
pas prévu d'en parler,
con, arrêtez.
Ouais, si, sur Vita, il y avait ça. Mais c'est juste ouf, ouais. T'appuies sur power, boum, c'est lancé.
Ah ouais, trop bien pour la batterie, j'adore.
Mais elle s'éteint jamais, moi ça me rend fou ça. De savoir que t'as ton truc qui tourne
vieux.
Constamment.
Genre. Regarde, il est vieux.
Non, mais... je suis d'accord avec lui, ouais. C'est vrai que psychologiquement, ça me bloque.
Tu peux l'éteindre si tu veux.
Je suis impuissant à cause de ça, quoi. Non, le mec qui est là, savoir qu'elle est allumée dans la chambre. Non, mais le truc...
Elle te regarde.
Black Mirror, Twitch, saison 5.
Non, c'était le problème du Kinect.
Ça c'était anxiogène.
Attends, j'ai été chez un pote chez un collègue qui m'a dit bah viens j'ai la Xbox One, c'était quand elle était sortie quoi. Et viens j'ai la Xbox One, viens on va essayer, on va se faire un petit truc, on fait une soirée chez moi, on bouffe une pizza, on boit un lait fraise sur le canapé,
oui,
nos mains se rapprochent. Attendez, c'est pas le même sujet, qui me dit viens on va jouer à Xbox One. Donc je débarque dans son salon et tout, bon, on bouffe, machin, on rigole, et à un moment il fait Xbox allume-toi, et le truc s'allume, et je fais putain, c'est avec le truc qui nous écoutait depuis tout à l'heure dire de la merde. Moi je suis désolé, je trouve pas ça rassurant, quoi.
Bah non, mais typiquement la vidéo du mec qui engueule l'arbitre sur NBA 2K, je crois, et il se prend une pénalité genre pour mauvais langage, t'es là, mais à quel moment, genre.
Tu peux même pas dire à ton jeu d'aller se faire enculer, quoi, c'est non, vraiment, c'est je suis désolé, c'est
honteux.
C'est honteux, c'est honteux, monsieur. C'est
non,
honteux.
Ça va, on a pas le problème sur Switch, y'a pas de micro, là, mais...
Mais tu ne sais pas si ça se trouve, la NSA t'écoute.
Imagine... Mec, tu sais, les mecs qui ont démonté la console, ils se sont fait payer pour pas dévoiler qu'il y a un micro, quoi.
Je sais pas si vous vous rappelez, il y en a un gif assez connu sur l'internet d'autrefois, hein, du 20e siècle, dans lequel t'avais un mec qui soulevait une touche de clavier, t'avais un petit agent du FBI en dessous, et il avait écrit The FBI is watching you masturbate, et je pense qu'effectivement, c'est à peu près ça. Bon, bref.
Mais non,
non, mais y a le 20e siècle avait quand même des trucs intéressants, de temps en temps. C'est pas toujours le cas, mais. C'est pas où charger ce gif mettait plusieurs secondes.
C'était pas possible.
Ce qui était quand même juste beau. On va terminer sur les quelques points peut-être d'inquiétude qui restent encore. Alors on va faire nos game cultes. Pouillot, si tu nous écoutes.
Ouais.
Big up.
Cyril Drevet, si tu nous écoutes.
Ah oui, voilà. Lui aussi, il est magnifique.
Putain.
J'aime Stabilo éclate.
Et voilà. Est-ce que vous pensez que sur cette deuxième année de la Switch, il risque d'y avoir un ralentissement éventuellement des ventes ou au contraire une accélération? Ça a quand même super bien démarré.
Attends,
on a
attends.
Vu,
tu sais que demain soir déjà on peut avoir tort. Hein.
Demain soir on peut avoir tort. Mais okay. Voilà, ce que je constate c'est que la Switch aujourd'hui a dépassé la première année de la Wii qui était exceptionnelle. Elle a dépassé la première année de la PS4 qui était assez exceptionnelle aussi. Elle dépassait la première année de pratiquement toutes les consoles existantes. Sauf peut-être la DS. J'ai pas les chiffres pour la DS. Mais je sais qu'elle a déjà dépassé la première année de la Wii, qui avait souffert d'énormément de ruptures de stock lors de sa première année. La Switch n'a pas tellement souffert que ça de ruptures de stock, Nintendo s'est vraiment bougé le cul pour ça. Je vous rappelle que l'année dernière, au mois d'avril, on avait fait une petite news dans un dojo bar pour dire, ben voilà, Nintendo commence à expédier des Switch par avion, pour être certain que les rayons soient remplis.
Avec des Joy-Con qui déconnent.
Avec des Joy-Con qui déconnent parce qu'ils s'en foutent.
Ça change des NES Classic Mini.
Voilà. Donc est-ce que vous pensez que ça va accélérer, que ça va se maintenir sur ce rythme-là, ou au contraire que ça risque de décélérer? Parce que pour l'instant, c'est vrai que le planning est rempli, mais pas de jeux complètement foufou non plus. Enfin, on n'attend pas un autre Mario et un autre Zelda et un autre Mario Kart cette année. Quoi.
Je m'en fous, je veux du carton.
Alors, le Nintendo Labo, ça va forcément être un truc monstrueux. Hein. Voilà. C'est obligé.
Les voyants sont au vert.
Mais est-ce que vous pensez que ça va faire vendre des machines?
Ah oui, il y a des chances.
À mon avis,
ouais.
Oui. À ceux qui n'étaient pas encore convaincus. Mais alors, là où je pense que ça va décélérer, c'est que j'allais dire, ouais, mais il y a quand même Metroid, machin. Mais ceux qui achètent la Switch. Enfin, qui. Ceux qui connaissent Metroid et qui l'attendent, à mon avis, ils l'ont déjà acheté.
Ouais, je pense aussi.
Oui, ça a coupé en plein milieu. Ils ont
donc,
déjà,
ils ont
la
déjà
Switch,
acheté
quoi.
La Switch. Je ne sais pas. Metroid Prime est un jeu qui s'est quand même extrêmement bien vendu. Je veux dire, il y a un nombre de ventes conséquentes. Hein. Ça a été un des très très gros succès de la GameCube. Du GameCube. Et même, voilà. auprès du grand public. Autant Metroid Prime 2 était peut-être un jeu un peu plus de niche, et Metroid Prime 3 a marché correctement. Mais voilà, Metroid Prime, le premier du nom, a marqué énormément de joueurs, notamment de l'âge de Galaxies.
Ah ouais.
En plus de Drosgar, d'ailleurs.
Je savais pas.
Ça a marqué l'adolescence de pas mal de gens. Parce que c'était quand même un jeu assez exceptionnel. Il a pas pris une ride, Metroid Prime. Hein. C'est vraiment un truc qui est toujours aussi jouable aujourd'hui et aussi agréable à jouer.
Il était sur quoi, Metroid Prime? C'est sur la
GameCube.
Oui. Ah bah oui.
C'était le 3.
Vous l'avez
c'était
dit juste avant.
J'attends de la Wii.
J'ai entendu dans la trilogie sur Wii, moi, mais c'est vrai que je voyais mon cousin y jouer quand on partait en vacances ensemble, et ça avait l'air ouf, mais j'avais peur.
Ah bah, si.
Ce que je comprends.
Info exclusive, il y a déjà la Fnac qui vend des Metroid Prime.
Oui, mais la Fnac met des placeholders où ils te vendent des trucs...
Des Metroid Prime 4, pardon.
Non, c'est un Kickstarter.
Sur Switch.
J'avais précommandé Battle Chaser Night War en septembre dernier, il est toujours pas sorti. Hein.
Tu me diras hein, quand t'as des news, m'intéresses-tu?
Non, parce que j'ai annulé ma préco, j'ai marre d'attendre.
Ok.
Mais bon, voilà, peut-être que je le prendrai, mais je suis même pas sûr, parce que ça va pas du tout être mon style de jeu. Donc vous, vous auriez plutôt tendance à dire accélération grâce à Nintendo Labo ?
Non, maintien, maintien au minimum.
Maintien ?
Ouais.
Ce qui serait déjà une très bonne chose, hein. 28 millions de consoles au bout de 2 ans, c'est un très beau chiffre.
Tu en auras tort demain soir, mais petit creux jusque cet été, annonce de Smash Bros, bonjour, on vous le présente, 2 semaines après il sort, et rendez-vous à Noël, quoi.
Franchement, j'espère, parce que là, pour l'instant, je sens pas forcément bien. Il y a Nintendo Labo, mais il faut apporter plus que ça. Et comme je disais au début de l'émission, plus de portage, ça va vraiment apporter plus de monde.
Alors après, voilà, s'il y a un petit trou au niveau sortie Nintendo, est-ce que ça peut laisser un peu le champ libre à des tiers qui se seraient réveillés tard pour sortir des cartouches intéressantes?
D'ailleurs, je vois que Dark Souls est à 35 euros sur Switch, sur Amazon. Donc, non, mais je veux dire, enfin, c'est pas hors de prix, mais
non,
je...
c'est honnête.
Je trouve que justement, c'est bien.
C'est bizarre parce que j'ai pas l'impression que le compte Twitter, notamment de Nintendo, met tant en avant que ça les jeux hors Nintendo.
Bah, sur la Switch. Ils le font, ils l'avaient fait pour Doom, hein, ils avaient fait une grosse promo autour de Doom. Ils avaient
ouais,
vraiment.
C'est ouf, Doom, un jeu qui était sorti l'an dernier en
Doom,
console
Doom
de salon
Switch,
et qui
est
sur portable.
Il est pété ce jeu, quoi. Les mecs de Panic Button, les gars, mais. Franchement, on vous fait des gros bisous entre les fesses, quoi.
Et merci pour le patch, c'est juste énorme.
Et merci pour le patch.
Ah oui.
Les gars, mais j'en fous partout. Je suis en train de faire une deuxième run de Doom, alors que j'ai plein d'autres jeux à jouer, mais parce que c'est tellement bon que c'est très compliqué. D'ailleurs, j'en profite, puisque vous embrayez sur les titres tiers, est-ce qu'il y a toujours des inquiétudes, des préoccupations concernant la machine ? Moi, ce que j'avais noté, c'était effectivement le soutien des gros tiers, c'est-à-dire, finalement, EA... avait dit avec la Wii U, ils ont sorti 2 jeux et puis après ils ont fait oh, c'est bon, c'est de la merde cette machine, on arrête. Ce qui, au regard des ventes, était compréhensible. Hein. Là sur Switch, ils ont fait un effort, ils ont sorti FIFA et c'est tout.
Et ils le maintiennent pas, les cons, c'est ça ?
Ils le maintiennent même pas, enfin ils le maintiennent. Il y a eu 1 ou 2 patchs pour corriger des bugs qui étaient vraiment des bugs critiques.
Ok.
Mais en dehors de ça, pas de son, pas d'image. Et je veux dire, ils n'ont pas l'air d'avoir particulièrement prévu d'avoir des portages de jeux. Il y a Fe, je sais pas comment on dit, Fi, F-E, donc c'est compliqué, ça fait feu. Révise ta prononciation, enfin
ton tableau périodique.
Ton béaba avec le dojo bar, F-E, feu, et oui, c'est bien. Tu sais maintenant lire. Mais voilà, j'ai l'impression que les gros tiers, à part Bethesda, qui est vraiment à bord et qui y va à fond les ballons, et ça fait super plaisir.
Yep.
J'ai l'impression que côté Electronic Arts, on est un peu frileux. Côté Ubisoft, il y a quand même eu Mario et les Lapins Crétins. Il y a eu les titres habituels d'Ubisoft. Il y a eu un portage de Rayman Legends. J'ai l'impression qu'Ubisoft, c'est à peu près à bord, même s'ils sortent pas tout dessus. Les autres, ça se bouge pas tellement. Activision, 0 jeu.
Acti, je comprends pas. Ouais.
Acti, c'est compliqué quand même. Electronic Arts, donc FIFA 18, et puis c'est tout. Alors il y a Fe qui va sortir ou qui est sorti il y a très peu de temps.
Il est sorti, ouais.
Voilà, je ne sais pas si ça marche bien ou pas. Je veux dire, que les mecs soient pas satisfaits de la Wii U, je peux parfaitement le comprendre, mais là, ça va, 14 millions en une année, on est bien, non ?
Burnout Paradise.
Oui, mais c'est dingue ça.
Le remaster, il sort sur Xbox One. PS4, mais pas sur Switch, c'est incompréhensible.
Voilà, ça, c'est un truc de ouf.
C'est ce genre d'absence de portage qui m'énerve.
Surtout que ça...
Le mec il dit ça alors que tu sais, genre la Switch c'est 90% de portage de.
Non mais je suis d'accord avec Drosgar sur un truc, c'est typiquement le genre de truc. Si Dark Souls Remaster sort sur Switch, je vois pas pourquoi Burnout Paradise Remaster sortirait pas sur Switch. Hein.
Et à mon
quitte
avis,
à nous sortir la version Xbox 360.
Quoi. Ils y ont pas cru au début, ils ont sorti FIFA, ils se sont dit
ils ont
au cas où
si
ça marche bien, tant mieux. Mais je comprends pas, c'est vraiment très bizarre. Alors que, on vient de le dire, genre Ubisoft s'y a cru. Bon, c'était un peu frileux, mais
Ubisoft...
il y a cru dans le sens où
Ubisoft
quand même fait un jeu original dessus,
quoi. Ubisoft y a cru parce qu'ils étaient peut-être un peu plus impliqués.
Ouais, ils avaient le deal de ouf.
Ils avaient quand même le deal de vous faites un jeu. Vous faites un jeu. Alors, Drosgar, non, ça c'est intolérable. C'est intolérable. Tu vas aller dans ta cuisine, tu vas prendre un poireau et tu vas te flageller les fesses avec, s'il te plaît.
Oh, mais... Tu filmes.
On annonce la démission de Drosgar.
La dépression de Drosgar.
Mais non, mais c'est pour ça que c'est incompréhensible. Alors que oui, donc du coup, peut-être par manque d'information par rapport à Ubisoft qui était un peu plus dans les petits papiers de Nintendo. Mais Electronic Arts, c'est incompréhensible.
Bah, Electronic Arts, à la limite, ils sont un peu fâchés avec Nintendo depuis quelques années, donc. Mais même, enfin, S'il y a du pognon à faire, Electronic Arts essaiera d'en faire. Je pense que on a bien compris maintenant le leitmotiv essentiel d'Electronic Arts.
C'est ce qui est écrit au-dessus de leur porte du session. Oh là là. S'il y a de l'argent à faire, on est là.
Mais c'est... non, mais c'est... ça me paraît effectivement incompréhensible qu'ils aient pas vu le coup venir. Voilà. Ils ont été très nombreux, je pense, dans la presse spécialisée, dans le milieu du jeu vidéo, que ce soit les développeurs, les éditeurs et tout ça, à se dire, à être très sceptiques vis-à-vis du concept, très sceptiques vis-à-vis de la machine. Et je veux dire, on en a vu, que ce soit Erwan Cario, que ce soit Gamekult, on en a cité plein des exemples de gens qui étaient vraiment extrêmement perplexes ou réticents à l'idée de la machine en se disant, est-ce que ça a vraiment marché ? Voilà, je suis pas. Mais un an après, avec les chiffres qui sont annoncés, avec le buzz qui fait autour, avec tous les gens qui sont en train de dire putain, c'est génial, putain, faudrait porter tous les jeux possibles et imaginables sur Switch et ainsi de suite.
Put everything on Switch.
C'est ça, put everything on Switch. Pourquoi Electronic Arts c'est toujours pas à bord, quoi ? C'est incompréhensible. Même en faisant des trucs à l'arrache, je veux dire, ils auraient fait un portage ultra à l'arrache de Burnout Paradise, je pense qu'on aurait tous été contents. Même avec un truc un peu à la va te faire foutre, quoi.
Priorité au Twitter, il y a Vince956 qui dit que THQ Nordic est toujours présent.
Blob, yes.
Oui, mais enfin, est-ce que... Oui, enfin, THQ Nordic, ils sont... Enfin, remarque, oui, THQ Nordic est présent, mais c'est pas un très très gros éditeur.
Non, c'est sûr, mais ça en fait toujours un de plus, c'est sûr.
Ça en fait toujours un de plus, oui. Ça, je vous l'accorde. Mais Nicalis, par exemple, l'éditeur américain qui sort énormément de jeux indés en version physique, ils sont à bord depuis le début, hein. Pareil, et ils sortent... un ou deux jeux, un jeu tous les deux, trois mois en version physique est un jeu indé, ça fait plaisir, il n'y a pas de souci.
Ah, c'est avoir des jeux indés en physique comme ça, c'est quand même pas mal. Hein, parce que même pour les créateurs indés, c'est, mine de rien, c'est quand même une reconnaissance d'avoir un jeu en physique. Hein.
Ah, et complètement.
À mon avis, c'est pas rien quand même. Hein.
Bah, ça fait, je pense que ça leur fait plaisir. Je pense que ça se vend bien, parce que sinon, les mecs auraient arrêté de le faire.
Et c'est le seul insépli qui est d'ailleurs dans la jaquette, hein, parce que oh. Binding of Isaac, c'est le seul où il y a un petit manuel avec. Hein.
Ah oui, il y a un manuel. Fout,
hein. C'est incroyable.
Non, attends, Tiny Barbarian DX, il y a un petit manuel.
Ah bah oui, mais voilà, il y a que
à chaque fois, les sorties Nicalis, Cave Story Plus, il y a un petit manuel.
Mais c'est des gros douilleurs, alors que Elder Scrolls, enfin genre Skyrim, ou Mario Kart 8, tu peux te faire voir. Hein.
Genre, ah non, c'est clair. Mais en même temps, Bethesda a porté, bah, voilà, pareil, Bethesda a porté Skyrim sur Switch, c'est un excellent portage.
45€, putain, pour un jeu qui date de 2011. C'est ça aussi que,
et ça se
qui
vend.
Est un peu chiant. Ben oui, ça se vend, mais pour des cons.
Ah oui, j'ai pas dit le contraire.
Bah non, je respecte, hein, c'est désolé pour vous si vous êtes comme ça depuis la naissance, mais en vrai, bah, Skyrim, bah, c'est vrai que dès qu'on a un PC qui date d'il y a moins de 10 ans, on peut le faire tourner avec une édition collector qui tombe à 10€ tous les 6 mois avec tous les DLC. Et
oui, c'est ça qui est un peu chiant.
Mais pas dans tes chiottes, ouais. C'est la taxe Switch.
Ouais, mais bon, tu perds les modes, tu perds plein de choses.
C'est vrai.
En fait, j'ai l'impression que Bethesda a visé un peu trop haut avec ce portage. Vraiment, genre, c'était annoncé le début, alors que c'est pas un portage qui a 2 ans. C'est un jeu qui a 7
oui,
putains d'années.
Celui-là était peut-être un petit peu abusé. Mais néanmoins, si on parle pas de prix, hein, vraiment.
Vas-y.
C'est plutôt un portage qui est techniquement propre.
Ah oui, ça,
et qui marche très bien.
Ah oui, il manque le gyroscope, mais sinon...
Il manque le gyroscope.
J'ai joué avec le gyroscope.
Quand vous allez regarder ce qui a été fait...
Il semble qu'il y ait sur l'arc.
Non, je crois pas.
Je sais plus.
Quand vous regardez le boulot de portage qui a été fait, les mecs se sont quand même sortis les doigts du cul pour faire un truc propre. Et je veux dire, il y a vraiment, techniquement, pas grand-chose à lui reprocher. C'est une version qui tourne beaucoup mieux que la version Xbox 360 qui est sortie il y a quelques années. Ce qui est quand même... Enfin, pour une console portable, je trouve qu'il y a un bond assez monumental qui a été fait en quelques années.
Ce qui a facilité, et à mon avis, c'est aussi ça qui a facilité le succès de la Switch, c'est que c'est Nvidia qui est derrière. Et mine de rien, il y a énormément de choses qui avaient été faites en amont pour optimiser les jeux sur le matos Nvidia. Et donc,
c'est leader mondial là-dessus.
C'est pour ça. Genre, à chaque fois qu'il y a un jeu, clairement, moi j'ai un nouveau driver hein, pour optimisation de ce jeu. Bah, alors que je peux même pas le faire tourner, hein, parce que j'ai un PC, c'est ça ressemble plus à une patate qu'un PC. mais
toi aussi, tu nous écoutes.
Mais voilà, et donc du coup, je pense que le fait que toutes ces technologies qui soient propriétaires Nvidia, ça a énormément aidé au portage d'anciens jeux. Bah, notamment, j'ai vu une vidéo qui disait que c'était Physics, ou la tessellation, voilà. Il y a la tessellation, c'est quand tu as un modèle et que tu divises le nombre de polygones pour le faire apparaître plus, plus détaillé.
Oui, tout à fait.
Et c'est très très mal géré sur AMD parce que la technologie est propriétaire Nvidia. Et ça posait problème pour certains jeux qui avaient des modèles en fait, qui utilisaient ça. Ils ramaient pour rien, en fait, juste pour un modèle à la con, genre une barrière. Et le fait qu'il y ait cette technologie qui soit présente dans Nvidia, enfin qui soit propriétaire d'Nvidia, soit propriétaire de ces technologies, je vais y arriver, et ben à mon avis, ça a énormément aidé au portage des jeux, parce que c'était déjà présent.
J'ai cru comprendre, de la part de pas mal de gens un petit peu plus techniques, que porter des jeux sur Switch était relativement facile, parce que les kits de développement étaient d'excellente qualité, et que les très gros moteurs de jeu, Unity, Unreal Engine 4, il y en a 2-3 autres comme ça, des moteurs plutôt très utilisés, avaient fait un gros effort, Unity étant ceux qui ont le plus galéré apparemment, mais que les mecs qui développent ça, cette espèce de middleware en fait, avaient fait un gros effort pour que la Switch ça se passe bien, et j'ai l'impression que Nvidia apporte un soutien logistique à Nintendo qui est non négligeable, et que Nintendo va effectivement aussi aller pousser certaines personnes et aller filer un coup de main pour que ça se passe bien. Je pense que les leçons de la Wii U, on commence à porter, parce qu'apparemment la Wii U c'était très compliqué de développer avec. Quand on dit très compliqué, je pense que les mecs qui disent ça ne plaisantent pas. Et du coup, Nintendo a probablement appris de ses erreurs là-dessus et s'est dit, ben, pour que les développeurs viennent sur la machine, il faut que la machine soit extrêmement versatile et que ce soit très facile de faire des portages dessus ou de faire du développement dessus. Et de tout ce que j'ai compris jusqu'à présent, la plupart des gens ont l'air de dire, c'est un vrai plaisir de travailler avec l'équipe de développement de la Switch, ça marche très bien, c'est super facile, et on arrive à travailler très vite et très efficacement avec. Donc ça ferait sens par rapport à ce que tu dis, Galaxy, et effectivement, je pense que le partenariat avec Nvidia, il n'est pas neutre. Nvidia, c'est le leader de l'industrie de tout ce qui est cartes vidéo depuis quand même pas mal d'années. Il y a tout un tas de technologies qu'ils ont réussi à intégrer dedans. Et ils ont fait, à mon avis, un gros boulot en amont pour que ce soit le plus simple possible pour la plupart des développeurs d'arriver à s'y mettre. Ça, j'en suis absolument persuadé, et on a tous les indices qui nous le montrent. Après, qu'est-ce que ça va réellement apporter dans le futur, j'en sais rien, parce qu'à un moment, la machine va peut-être quand même atteindre ses limites.
Mais peut-être plus lentement que les autres, parce que peut-être. Je sais pas sur quoi est-ce qu'elle tourne, la Xbox... J'ai cet exemple. C'est AMD. Bah, on a vu déjà à sa sortie, il y avait des jeux, elle avait du mal à les faire tourner, et aujourd'hui, je sais pas...
Aujourd'hui, le hardware est quand même un peu plus maîtrisé, et je pense qu'il n'y a pas trop de problèmes. La Xbox One, première du nom, est de toute façon une console qui est handicapée par un CPU qui est un peu plus lent que celui de la PS4 et par une bande passante entre le CPU et le GPU qui est un peu plus réduite. Basiquement, AMD leur a dit, voilà, chez Sony, ils ont tel APU, donc tel processeur central avec tel GPU. Si vous voulez, on vous fait la même à $50 de moins, et bon, forcément, ils ont mis un peu moins de trucs dedans, quoi.
Ah, mais c'est... À la sortie, il y a clairement des jeux qui avaient du mal, et même sur la Switch, j'ai l'impression que ça... C'est le cas, mais ça a l'air... Enfin, c'est moins présent. C'est-à-dire que il y a un GPU qui est quand même assez puissant pour ce que c'est. Et ça a l'air de moins s'essouffler. En fait, de moins s'essouffler rapidement, de proposer de meilleures choses, mieux maîtrisées, mieux optimisées. Que les précédentes consoles, quoi. Après, il n'y avait peut-être pas ce besoin, le fait que ça soit portable, le fait que les autres soient seulement de salon, il y avait peut-être moins besoin d'optimisation, parce que là, en fait, il y a quasiment deux optimisations à faire.
Mais de ce que tout le monde a dit, c'est pas plus compliqué que de prévoir deux settings finalement PC.
Voilà,
Que j'ai compris, dans la plupart des développeurs, ils disaient, voilà, sur PC, tu sais, t'as souvent un truc qui dit graphisme, alors ultra, high, medium, low, machin. Et les mecs disent, en gros, bah, c'est juste une question de tourner des boutons en disant, bah voilà, on va mettre les ombres un peu moins bonnes, les machins un peu moins bons et tout ça. Donc t'as juste deux settings par défaut, entre guillemets. T'as le settings télé, qui est donc tout au max. En tout cas, max de ce qu'on peut faire. Et quand on est en portable, eh ben, effectivement, il faut peut-être faut réduire certains trucs pour être certain que ça tienne. Mais de ce que j'ai compris, c'est que c'était pas beaucoup plus compliqué que de faire deux préconfigurations pour PC. Pour dire, voilà, ultra et low, En gros, c'est à peu près ça. Portable ou salon, ça revient à peu près à ça. Mmh. Voilà. C'est ce que j'ai compris.
Bah ouais, écoute.
J'ai l'impression que de ce point de vue-là, la Switch a quand même un peu le cul blindé et que ça devrait le faire. Bon. Bah, du coup, tout le monde est plutôt optimiste, à part Drosgar.
Ouais, mais moi, je suis un gros con, donc ça fait pas grand-chose.
Un gros con de gauche.
Ah, oh, <Joël. rire>
Voilà, c'est le... Tous les voyants sont au rouge.
Ouais.
Bref. Nous allons donc nous quitter, parce qu'il commence à se faire drôlement tard. Nous allons nous quitter avec la citation du jour. Malheureusement, elle est anonyme, ce n'est pas Hideo Kojima. Mais elle m'a énormément touché aujourd'hui, parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu la vie, finalement. Donc la citation du jour, donc. « Si Tetris m'a appris un truc, c'est que les erreurs s'empilent et que les accomplissements disparaissent. » Je trouve que c'est beau. Et
c'est beau. C'est beau.
Voilà. Et nous avons une deuxième citation du jour qui vient de notre camarade Alité. Big up, bro.
Soigne-toi bien, camarade.
Voilà, il n'y a pas beaucoup de différence entre la musique de jeux vidéo et celle des films érotiques des années 80. Allez, pour terminer sur une touche un petit peu plus... Bref.
Ah, c'est juste ça, d'accord. J'attendais, genre, tu sais, genre, c'est composant 8 bits ou un mec comme ça, tu vois, genre.
Ouais, non, il y a, voilà, c'est tout.
D'accord.
Ça me fait mal. Ça m'a fait rire parce que ça sortait un peu de nulle part et que c'était, voilà, c'était rigolo.
Ah, il vous remercie, il vous remercie.
Eh bien, on le remercie aussi de nous écouter. Mais les petits amis, les petits amis de No Life, non, je déconne. Lui aussi, big up. Nintendo va mourir. Bref, donc, nous ne nous retrouverons pas mercredi prochain, pour des raisons logistiques, nous ne pourrons pas tenir d'émission, sauf si je la tiens en direct de la République Dominicaine. Ne me tentez pas, parce que je...
Non, je ne peux pas être là, je me suis arrangé.
Voilà, il n'y a pas grand monde qui pourra être là, Antix s'excuse par avance, parce qu'effectivement, il ne pourra pas être là non plus la semaine prochaine, il avait un truc de prévu, donc voilà, mercredi prochain, il n'y aura pas d'émission, donc on se donne rendez-vous mercredi dans 15 jours, je vais essayer de me débrouiller pour que le podcast soit moins à la bourre cette semaine, je m'excuse auprès... Enfin, je vous prie de tous m'excuser, le podcast était très à la bourre ces deux dernières semaines, ça a été un peu compliqué d'arriver à le caser quelque part dans la semaine, donc je vais essayer de me débrouiller pour que ça paraisse avant ce week-end. Ça va être un petit peu long, mais on vous retrouve dans deux semaines pour
comme
une émission chut, c'est pas bien pour une émission toute belle, toute chaude qui va sentir bon le sable chaud. Voilà, à dans deux semaines, bisous, ciao tout le monde
par semaine.
Salut les gens,
salut.
C'est musique de Tetris bourrée.
Ah. Oui.